Donc, on est d'un côté, il faut détruire la structure éthique, c'est-à-dire la bureaucratisation, et de l'autre côté, comme dans ton récit, on comprend bien que l'hôpital n'est pas comme une marchandise comme l'autre, n'est pas comme un service comme l'autre, c'est quelque chose d'autre. C'est l'espace commun fondamental, car il y a deux savoirs, il y a deux corps. Mm-hmm. Okay? Donc, la chose que je veux dire, comment, si par exemple, on décidait de te mettre à la tête de la refonte de l'hôpital, comment tu imaginerais un espace nouveau? Bah écoute, on est là, hein, c'est-à-dire, non mais, il a 60 derrière, fait tous ses parcours, c'est une personne extrêmement intelligente, un jour ou l'autre, plus tard, il fera changer, mais m'intéresse pour la seule raison que j'ai craint ça, c'est-à-dire de pas imaginer l'autre passage. On voit la crainte du gâchis, et puis mm-hmm. dit bon voilà, et que moi je la définis à la soviétique, hein, c'est-à-dire mm-hmm. la dégénération, c'est-à-dire la bureaucratisation du collectif. De l'autre côté, on voit bien les marchands, d'accord, mais on a vu bien que l'hôpital ne peut pas être ça, d'accord. Donc il faut bien aujourd'hui.
Non, mais c'est une vraie question. Oui, ou bah, je te dis, enfin. Et là aussi, c'est ce que j'évoquais, la qualité relationnelle au sein des services. Est-ce que c'est un des moyens pour dépenser moins et plus efficace? C'est trop beau pour... c'est du rêve, peut-être. Que... Moi, je pense qu'en effet, ça... Probablement, c'est une des clés. Mais là aussi, changer de telle culture...
Et si je te pose une autre question, est-ce que tu penses...
Oui,
ouais.
Non, mais voilà, ça agit, ça vient.
Non, mais
sinon, si, bah, je te dis, mais si j'étais ministre, là, si, c'est évident qu'au niveau médicaments, il y aurait une énorme... ils se sont cassés les dents, mais parce que quand on voit l'industrie pharmaceutique, tous les enjeux économiques qu'il y a derrière, en France, toute la structure, en grande partie des portes de l'économie française, on voit bien ce que ça... de vouloir la moitié des médicaments prescrits.
Donc là, tu pourrais comparer H1N1, tout ce qui a été fait, etc.
Oui, là, en soi, il y a vraiment une réponse. Là aussi, notre médecine, c'est une réponse médicamenteuse. Et on a, les médecins sont conditionnés parce qu'on sait qu'après la fac, et puis en plus, on va bien, après, on dépend des laboratoires, de manière évidente, même les plus intègres, éthiques. Quand tu étais au resto avec Madame Sanofi, ou quand tu étais invité au congrès, machin.
Non, je ne connais même pas ce truc-là.
Non, mais.
Moi j'ai été fonctionnaire chez France Télécom, et effectivement je faisais des gros appels, puisqu'on allait sur des gros appels d'offres. J'ai effectivement subi des pressions.
C'est même pas une pression,
je suis disant, mais jamais j'ai marché dans ce genre de truc.
C'est pas ça que je suis en train de dire, parce que j'essaie de dire. C'est que ça t'imbibe, et que bah, ils sont sympas ces gens-là, bah oui, bah, je vais leur presser un truc, finalement il n'y a pas tellement de temps. Enfin, toi, il y a. Et soit tous les congrès douleurs, les congrès douleurs, c'est affreux actuellement, bah, c'est comme les psychotropes, la dépression, bah, voilà, il y a une surconsommation, on est devant les champions du monde. De tous les psychotropes, hein, l'alcool, les psychotropes et les produits antidouleurs. Et la France est vraiment. Elle dépasse tout le monde. Et pourquoi? Parce que. Et donc, alors, en permanence, il y a le double discours concernant la dépression des psychotropes, l'énorme marketing des labos, et qu'il y a régulièrement des enquêtes qui montrent que la dépression est mal repérée, etc., et que je te rajoute. Des prescrits. Alors c'est vrai qu'elle est mal repérée, mais qu'elle est aussi très mal prescrite, et donc on se retrouve dans des aberrations continues, et un peu la même chose avec la douleur. On va, oh, il y a beaucoup, on fait des enquêtes de prévalence, et hop, le message derrière, il faut rajouter. Et l'histoire du viandalique, c'est un séisme. Parce que c'est des millions de Français qui consomment tous les jours du viandalique.
C'est quoi le
dentalgique, c'est un morphinique. Faible, mais néanmoins un morphinique, et qui a eu quand même une réputation, je me rappelle d'ailleurs, d'un produit très bien toléré. Enfin, capable, on parlait par rapport à la codéine, aux autres produits où il y a eu plus en plus de nausées, de certaines sédations, c'est vrai qu'il est. Mais c'est vrai qu'il y a une toxicité cardiaque, une toxicité quand on a une personne âgée, qu'on a un rein qui ne fonctionne pas bien, bah de prendre ce produit, ça peut être dangereux. Et c'est vrai que nous, tous nos voisins étrangers ont fait de la pharmacovigilance et en plus de risques et de bénéfices. Mais sauf en France, personne, à part qu'on a beaucoup plus en réalité d'accidents, mais qu'on y a perdu pas parce que ce n'est pas considéré comme un morphinique, c'est considéré comme un super paracétamol.
Mais c'est vrai que c'est
un morphinique. Alors que c'est un morphinique. Ouais, pour vous dire un peu, là, il y a des millions et des millions d'euros à la clé. Donc voilà, c'est mon programme, j'ai envie de le faire. sur le marketing. Mais là aussi, quand tu t'attaques à ça, c'est un fondement de la médecine. Les labos sont à tous les niveaux, dans les sociétés savantes, on est sur des progrès, etc.
Pour revenir à la douleur dans les établissements, est-ce que vous avez fait est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur le taux d'absentéisme du personnel, est-ce que dans ton France, dont une partie se traduirait par l'absentéisme, est-ce que dans ton service, il y a moins d'absence que dans les autres?
C'est vrai, il y a très peu. Sans surplace, d'ailleurs. Et je terrorise aussi.
On ne s'étend pas.
Hein. Non, c'est vrai que.
C'est vrai. Dire que ça, il supporte mieux finalement du fait qu'il est mieux géré.
Oui.
Il est traité.
Non, mais par contre, il y a pas mal d'attentisme.
C'est-à-dire, parce qu'ils ne sont peut-être pas tout seuls à la supporter.
C'est l'auto-valorisation.
Oui, non.
Lorsqu'il y a un projet, c'est ça. Ce que vous expliquez, c'est que toi, tu as un projet. La socialiser avec la bande de personnes qui sont hiérarchiquement plus ou moins. Des personnes qui sont dans des rapports hiérarchiques plus ou moins directs.
Oui,
mais donc ça veut dire que les participants d'un projet, il est évident qu'il y a une prise en compte de l'objet de travail supérieur à ce que lorsque tu es dans un service où tu es en conflit avec. Si tu penses qu'il y a ta FTP, et puis si jamais tu as, disons, si tu n'es pas dans les bonnes conditions de travail avec ta hiérarchie, c'est évident que là, il y a une différence énorme. Moi, je le vois à travers le témoignage de ma compagne qui est en crèche, qui a été en crèche pendant 20 ans, qui a fait le rapport entre la crèche parentale et la crèche de la ville de Paris, où c'est un véritable. La ville de Paris, c'est un. De torture d'intensité faible des enfants. Et également le personnel.
Bah oui,
le personnel, en fait,
souvent,
reporte sur les enfants.
Et je te donne
Moi, toujours, par rapport au personnel, je voulais te poser une autre question. Parce que, comme je le répète, dans la hiérarchie de l'hôpital, c'est-à-dire, il y a le médecin, et après, d'autres structures que nous faisons mon tourner. Hein. Par exemple, pendant une période, il y a toute une réflexion de comment accompagner les médecins dans l'évolution de leur carrière. C'est-à-dire, les infirmières ont la possibilité de faire une anesthésiste, quand il y a un conflit très, très, très lourd, etc. Mais, par exemple, il avait aussi la notion d'introduire, parce que dans, par exemple, dans les pays du nord de l'Europe, il y a aussi cette pratique, c'est-à-dire de considérer que quelqu'un qui présente le soin par le besoin présent, une infirmière, il peut avoir des compétences comme un praticien. Est-ce que tu ne penses pas que dans la refonte de l'hôpital et donc sur un point qui est vraiment le point faible de l'hôpital, c'était le tourneur et la fatigue et l'usure des infirmières, parce que tu parles de ton, effectivement, justement, de ton service, mais les autres ne sont pas comme ça. Hein. C'est-à-dire, voilà, c'est des nuits, c'est par exemple le club des nuits, il y a tous les week-ends. C'est les rémunérations qui sont très basses. Et surtout, par exemple, si on regarde la vie des rémunérations des infirmières en anesthésie, c'est vraiment atroce. C'est-à-dire que tu toucheras ton salaire le plus élevé à la fin de ta carrière. C'est-à-dire que dans la réalité, tu n'arriveras jamais. Soit tu pars comme les infirmières. Et c'est par exemple, l'envers de la grille des salaires qui est introduit, par exemple, à travers l'institutrice. Dans une période, il y avait un problème d'institutrice. quand on regarde la grille des institutrices, de toute façon, je ne sais pas si vous avez étudié, c'est-à-dire les premières années sont vraiment le salaire plutôt élevé. Justement parce qu'il y a ce phénomène, soit si tu es à l'école au centre d'une ville, les salaires sont très faibles, etc. Tu ne penses pas que résister et justement dans un lieu comme celui-ci, qui introduit la recherche, le savoir, je crois, redéfinir aussi le fonctionnement de l'hôpital, dans la possibilité du personnel des soins qui est dans la réalité, et c'est vraiment lui qui est dans la dynamique la plus dure, peut être une possibilité de créer une nouvelle dynamique par rapport à.
Alors c'est sûr qu'en effet le problème de l'infirmière qui vieillit, c'est très dur de vieillir, en effet, elle va en général soit s'orienter, sortir de l'hôpital, ou s'occuper de sa famille, ou faire complètement autre chose, ou alors elle va se spécialiser, il y a la puériculture, infirmière anesthésiste, ou devenir cadre. Et on voit bien souvent, nous, dans les services, qu'on repère un peu ce qu'on appelle les référents douleurs, il y a des infirmières qui vont se bouger, et très souvent, c'est là, à un moment donné, eh ben, elles vont bouger, elles vont faire infirmière anesthésiste, ou elles vont faire le cadre, elles vont plus être directement sur le.
Ça, c'est une chose. Il y a vraiment des filières, des corps constitués sans aucune passerelle. En fait. Même dans le temps, aujourd'hui, par exemple, nous, dans le métier d'ingénieur, quelqu'un qui a été technicien pendant 20 ans, il fait une VAE. S'il a exercé un métier d'ingénieur, il peut prétendre à devenir ingénieur. Dans les textes, avec la VAE, c'est possible. C'est possible.
La validation de l'équipe professionnelle, je ne sais pas.
Les validations de l'équipe d'expérience. On suit un cursus universitaire et en même temps on doit prouver qu'effectivement on a exercé ce métier.
Non,
tu acquiers le diplôme, la qualification d'ingénieur à la clé.
Alors là, et en plus, il y a un autre débat qui est en train d'émerger, passionnant, moi je trouve. C'est les délégations de compétences. Donc, c'est plus l'hôpital, là, c'est de manière générale. Vu le problème de la démographie médicale, c'est que les pans entiers sont en train de tomber. Et ça veut dire qu'il y a toute une série de tâches, de missions que font traditionnellement les médecins qui pourraient être faites par des infirmières formées. Voilà. Ça, c'est évident que là, après, évidemment, c'est un sujet particulièrement difficile. Le corps médical qui a du mal évidemment, à lâcher ses prérogatives et les infirmières anesthésistes. Il y a les ophtalmos, qu'est-ce qu'il y a? Oui, par exemple, il y a une très belle étude justement, qui montrait des infirmières anesthésistes, des infirmières. Vous savez, donc, avant une intervention, maintenant, il est obligatoire de faire une patiente d'anesthésie. Il est tout très standardisé, c'est bon, le relationnel n'est pas vraiment souvent développé. Enfin bon, ils avaient comparé les performances, entre guillemets, la fiabilité d'interrogatoire, ce qu'ils arrivent à trouver des trucs. Soit c'était un interne, un étude médicale, et les infirmières qui faisaient ça. Et bien le résultat, c'était quoi? C'est les infirmières qui étaient les plus performantes parce que, évidemment, elles avaient un challenge, il fallait qu'elles fassent, ça les faisait chier. De faire cette consultation, etc. Donc là, il y a aussi tout de suite un classement qui est beaucoup plus motivant, évidemment. Et justement, dans l'équipe, on fait ça aussi, parce que, enfin, justement, il y a des consultations dans mon équipe, justement, il y a une infirmière, il y a des consultations infirmières pour avant prendre des adolescents qui sont opérés du rachis, parce que c'est scolieux, c'est un gros chantier, donc elle fait des consultations avec des fibres, etc. Partout. Donc, voilà, il y a aussi, et puis aussi la cadre infirmière de. On fait beaucoup d'audits. C'est-à-dire qu'on va dans les services, on évalue un peu les pratiques, on fait des films, etc. Et c'est évident que, je pense, ça fait partie des motivations et qu'on est content de bosser, de publier des pratiques, etc.
Et aussi, je comprends, mais la chose que je veux dire, c'est un compte de la valorisation objective. C'est-à-dire que, évidemment, que pour un médecin, le fait de faire le problème n'est pas là, c'est que quand on discute avec eux, le problème, ce n'est pas simplement de faire des fonctions qu'ils sont maîtres de faire, c'est aussi définir une grille de rémunération.
Ah, mais tu
parce que le problème est là. C'est-à-dire, si je fais la place du médecin, le médecin, c'est pas papeux, hein, c'est pas vu, c'est le salaire. Hein. Donc, je vais dire dans l'hôpital, il y a une fracture salariale importante.